Aujourd'hui, nous définissons la médecine de deux manières, comme une science et comme un champ professionnel. Comme une science qui a pour objet l'étude, le traitement, la prévention des maladies, l'art de mettre, de maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de santé. Et comme un champ professionnel, soit l'ensemble des médecins, le corps médical. Cette double définition de la médecine nous semble traverser l'histoire de l'humanité et ses diverses cultures. Mais la médecine, cette fois au sens de pratique thérapeutique, ne correspond pas toujours, hier ou ailleurs, à cette définition. Par pratique thérapeutique, j'entends ici l'ensemble des prises en charge sociétales du mal, soit tout ce qui fait souffrir physiquement ou moralement, tout ce qui est contraire au bien-être, à l'épanouissement, tout ce qui est mauvais, dommageable, néfaste aux êtres ou aux choses, et enfin tout ce qui est contraire au bien, soit entendu dans son sens commun ou dans son sens absolu, avec une majuscule. C'est-à-dire ce qui peut être contraire à la loi morale ou à la vertu, ou au sens religieux de faute, péché, esprit du mal, démon, et enfin dans son sens philosophique, le mal absolu, métaphysique. Ainsi, l'art de guérir dépasse largement le fait de débarrasser une personne, le corps ou une partie du corps, d'une maladie physique ou mentale, en le ou la ramenant à la santé. Les figures du médecin, du chaman, du sorcier, du prêtre s'interprénètrent dans la plupart des cultures humaines. Car au-delà de leur caractère organique, les phénomènes corporels s'expriment à travers des discours, des représentations et des pratiques multiples. D'une part, la maladie met en jeu des institutions et des acteurs qui dépassent l'aspect physiologique. C'est une question sociale qui peut faire intervenir des histoires de lignage ou d'alliances, de conflits familiaux, à travers divers rituels, églises, marabouts ou encore devins. D'autre part, ceux à qui l'on reconnaît un pouvoir thérapeutique sont également sollicités pour des choses qui n'ont pas directement à voir avec la maladie, comme l'issue d'un examen, d'une élection ou encore d'un procès. Les pratiques thérapeutiques sont donc en continuité avec la sphère du magique, du religieux, du politique. Être malade n'est pas seulement une affaire de thérapeute. Bien entendu, la connaissance du fonctionnement biophysiologique du corps n'existe pas que dans les sociétés modernes. Par exemple, la connaissance de plantes à usage thérapeutique et la maîtrise des pratiques chirurgicales sont attestées depuis la préhistoire et dans de nombreuses sociétés, témoignant donc d'une prise en compte de l'interprétation organique des phénomènes pathologiques. Donc, non pas plus rationnelle, non pas moins magique, la médecine moderne a néanmoins une spécificité. À la différence de toute autre pratique thérapeutique, elle a construit la maladie comme domaine d'activité spécifique et le corps comme réalité quasi uniquement biophysiologique. La modernité, en constituant doublement la médecine comme science et comme champ professionnel, va permettre à cette dernière d'autonomiser la prise en charge de la maladie des autres sphères du thérapeutique. Donc la médecine moderne comme projet d'émancipation. J'entends ici par modernité la configuration sociétale particulière apparue au XVIe siècle en Europe occidentale et qui dès lors ne cesse de se renforcer et de s'universaliser. L'époque de la Renaissance marque une nouvelle conception de l'être humain et du monde qui l'entoure. La rupture déclarée avec le passé, avec la tradition et ses fondements, contraint la modernité à trouver sa normativité en elle-même, à s'auto-instituer politiquement. Désormais, l'être humain se désigne comme source unique du sens et comme fondement des pouvoirs auxquels il se soumet. Et de ce fait, elle ouvre une position réflexive sur sa légitimité et sur son inscription dans le temps. Dans sa volonté de rompre avec le passé et la tradition, la modernité s'ouvre sur l'avenir. Désormais, on peut lire dans le devenir historique les grandes lignes du développement de l'humanité. Cette nouvelle relation au temps, notamment à l'avenir, se révèle au cours du XVIe siècle avec la notion de progrès, dont le sens se modifie alors. On passe en effet de l'idée d'un développement, avancement dans une action ou d'un mouvement en avant dans l'espace, à celle attestée dès le XVIe siècle, d'un accroissement par degré, amélioration. Passage donc de l'idée d'un mouvement spatial à celle d'un mouvement temporel. Sa conception est alors comprise dans son sens absolu, le progrès, écrit avec une majuscule. Elle suppose que les sociétés humaines s'inscrivent dans un processus d'amélioration et de perfectionnement général, dont le schéma est celui d'un progrès linéaire, cumulatif, continu, nécessaire, irréversible et indéfini. Rien n'arrête plus l'humanité, parce que rien n'arrêtera plus le progrès. À l'origine, la médecine moderne est loin d'être la preuve d'un désintérêt pour l'être humain. Elle est plutôt l'expression d'un nouveau rapport à celui-ci. Dès la Renaissance, la place du corps et son inscription dans l'univers tendent lentement à changer. Celui-ci se détache des puissances invisibles et s'autonomise. La médecine s'inscrit donc dans l'esprit de son temps. À la fin du Moyen-Âge, ce sont encore le modèle grec de l'humeur et des correspondances qui structurent les pratiques médicales. Donc là, on voit ici la représentation de l'homme zodiaque qui est très présent dans les traités d'anatomie du XVe, XVIe et encore jusqu'au XVIIe siècle. Ces représentations, en fait, avaient pour fonction de guider les médecins dans leur diagnostic et de leur permettre de choisir des remèdes par analogie. Parce qu'effectivement, on voit ici, en fait, que il est présenté en fait une harmonie entre le microcosme qu'est le corps humain et le macrocosme représenté par le mouvement des planètes, l'intervention divine, les anges, les arts, etc. Mais peu à peu, avec la révolution scientifique dans les sciences mécaniques, physiques et chimiques, la médecine cherche à s'émanciper de ses doctrines anciennes et à se fonder sur l'anatomie et la physiologie. Du XIVe au XVIe siècle, les dissections vont devenir le moyen de stabiliser ce nouveau regard sur le corps. L'étude anatomique, fondée sur l'observation, s'inscrit dès lors dans une dynamique de recherche scientifique, au sens moderne du terme, et permet une meilleure compréhension des structures internes du corps. Donc on voit ici une représentation d'une leçon d'anatomie du XVIIe siècle. Donc ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, là on ne voit pas très bien, mais à droite on a un grand livre ouvert, et qu'en fait, la plupart des assistants ont le regard tourné vers ce livre ou vers le geste pédagogique de l'anatomiste, bien plus que sur le corps disséqué. Et donc là, la plupart des interprétations de ce tableau, en fait, voient ici un indice que désormais le savoir médical sera transmis via l'écrit et via l'observation à travers la fonction pédagogique ici de l'anatomiste. Donc cette transformation du regard médical va être marquée par André Vézal, lors de la publication en 1543 de son célèbre ouvrage « De humani corporis fabrica ». Donc à gauche, ici, on a la représentation d'un corps anatomique. Donc ce qui est intéressant par rapport aux représentations tout à l'heure de l'homme zodiaque, c'est qu'ici, le corps est représenté pour lui-même et n'est plus entouré en fait, de toute cette cosmologie. Et à droite, on a le portrait d'André Vézal, qu'il a commandé en fait pour la couverture de son ouvrage. Et en fait, le fait qu'il ait choisi de se faire représenter avec un bras n'est pas du tout anodin, puisque le bras à cette époque et avec la main qui le prolonge, ben, en fait, symbolisait la capacité de l'être humain à manipuler et à avoir prise sur le monde qui l'entoure. Mais plus que d'avoir réalisé des découvertes majeures, André Vézal va plutôt favoriser la mutation d'un état d'esprit au sein du champ médical. Après lui, les références à l'autorité des anciens et au savoir populaire vont perdre de leur validité. Il écrit par exemple dans son ouvrage « Les docteurs parlent très souvent du plexus reticularis. Ils n'en ont jamais vu aucun, puisqu'il n'en existe pas dans le corps. Cependant, ils le décrivent, puisqu'il y en a un dans Galien. J'ai peine à croire que j'ai été assez stupide pour croire en Galien et en les écrits des autres anatomistes. » Galien, c'est un médecin grec de l'Antiquité qui aura encore une influence très forte sur la médecine médiévale. Donc on pourrait prendre également l'exemple de l'astrologie. Pour la plupart des savants, l'astrologie reste une force réelle d'action sur les corps. Mais cette réalité donne la possibilité, voire la nécessité, pour les individus d'entamer une démarche de santé pour avoir prise sur ces forces réelles que sont l'astrologie. Donc en fait, cet exemple-là, c'est pour montrer que plus qu'une rupture, c'est un processus, et qu'en fait, les références au cosmos ne vont pas être d'emblée remises en question, mais qu'elles vont prendre un sens complètement différent. Donc de cette manière, les références médiévales vont être progressivement rejetées et dénoncées par les scientifiques de l'époque tout au long du XVIe siècle. Puis au XVIIe siècle, simultanément au développement des sciences, le corps se désenchante encore un peu plus avec l'intervention croissante des machines et la philosophie mécaniste. La machine devient en effet la métaphore qui sert à penser le fonctionnement du corps humain. En parallèle, la philosophie mécaniste introduit avec force les notions nouvelles de mesure, de rigueur et d'exactitude. Désormais, la formule du monde sera donnée par les mathématiques. Finalement, rien n'échappe au principe du mécanisme, pas même l'humain. Un siècle plus tard, donc au début du XVIIIe siècle, Julien Onfray de Lamétrie sécularise définitivement le corps et l'âme sur le modèle du mécanisme. Et il écrira dans son ouvrage « L'homme-machine » « L'homme n'est qu'un animal ou un assemblage de ressorts qui tous se montent les uns par rapport aux autres, sans que l'on puisse dire par quel point du cercle humain la nature a commencé. Dans cet ensemble, même l'âme est un rouage. Toutes les facultés humaines dépendent tellement de la propre organisation du cerveau et de tout le corps qu'elles ne sont visiblement que cette organisation même. » Donc, dès le XVIe siècle, le paradigme du corps-machine imprègne le champ médical. Et si la présence d'une âme dans les êtres humains était toujours considérée comme allant de soi, de plus en plus de médecins jugent que l'examen de questions comme celle de l'essence de la vie ou de l'âme immatérielle était inapproprié dans le cadre des réalités quotidiennes de la médecine. L'enjeu pour eux était plutôt de saisir des structures, des processus physiologiques et pathologiques tangibles. L'étude de l'âme devait être abandonnée aux prêtres et aux métaphysiciens. La médecine, elle, devait étudier les causes secondaires, le comment, mais ni le pourquoi, ni le dans quel but. Ainsi, de manière exponentielle, la médecine va mesurer et quantifier le corps, ses pulsations, ses réflexes, ses fluides. Les mécanismes évoqués font allusion aux nouvelles machines du siècle. Boulons, vis, ressorts et rouages vont désormais représenter l'anatomie humaine et marquer l'assemblage et les articulations du corps. Donc on voit ici deux représentations qui sont faites par Androis Paré, qui est un chirurgien et anatomiste français du XVIe siècle. Donc à gauche, on a la représentation d'une des premières jambes artificielles que Ambroise Paré a imaginées. Et à droite, on a la représentation de la main de fer. Et donc on voit bien ici que la main n'est pas uniquement représentée comme le corps anatomique, c'est-à-dire fait de muscles, de nerfs, mais ici ce sont bien des boulons, des rouages qui montrent en fait le mécanisme de la main. Le corps est donc devenu pompe, fontaine ou même horloge, avec la diffusion des références cartésiennes. La surveillance des corps se fait plus intense et plus précise, de manière quasiment quotidienne dans les couches les plus aisées de la société. Elle se fait de manière plus profonde également, avec une attention accrue portée aux évacuations invisibles et aux flux. Ici, on a une invention d'une balance gigantesque par Santorio. Santorio, qui est un médecin et inventeur italien, du XVIIe siècle, XVIIe-XVIIe siècle. Et donc, en fait, cette balance-là, ça permet à un individu de se peser en fait en temps réel pendant qu'il ingère son repas pour pouvoir quantifier exactement les proportions. Mais Santorio, dans son ouvrage De Statica Medicina, va également développer la notion de transpiration insensible, donc pour mesurer également les évacuations invisibles du corps et pour pouvoir les quantifier. Donc on a ici en fait l'amorce d'une médecine quantitative qui va se mettre à mesurer très précisément les mouvements du corps. Donc ce mouvement de médecine quantitative et mécaniste n'est évidemment pas univoque et linéaire, elle n'a pas lieu dans toutes les classes sociales, ni partout, mais néanmoins, elle va amorcer un bouleversement profond de la société et dans le rapport en fait que les individus entretiennent à leur corps. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, se mettent en place de véritables politiques de santé en Europe. C'est notamment à travers une vision nouvelle des populations que la conscience médicale devient une conscience politique. En effet, cette nouvelle perception des populations ne peut prendre tout son sens que si la médecine est chargée, à travers la définition d'un statut politique à l'échelle d'un État, d'une tâche constante de contrôle social, mue par le projet de faire du corps une richesse nationale. Dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, l'art de perfectionner l'espèce humaine s'énonce comme un projet d'homme politique autant que de médecin. La nouvelle grande évidence fondatrice est que savoir, c'est pouvoir. La science ne se sépare plus de l'action technique et politique. qui transforme le donné naturel en l'adaptant aux besoins de l'espèce humaine. L'humain se célèbre comme sujet souverain qui, par son pouvoir de transformation, dispose librement du réel, imaginé comme malléable et manipulable sans limite. Un changement de société guide ces mobilisations. Les valeurs hygiéniques du corps s'opposent ici au vieil idéal aristocratique. L'investissement dans la descendance remplace peu à peu le prestige des lignées. La bourgeoisie, dont les valeurs s'affirment au XVIIIe siècle, se manifeste par cette recherche de force physique, celle immédiate de la santé et celle plus différée d'un renforcement des générations à venir. Une société de progrès à travers le contrôle des corps s'installe, promouvant une vigilance sur l'avenir physique de la communauté nationale. En ce sens, Michel Foucault parlera de deux grands mythes politico-religieux qui naissent dans les années qui encadrent la Révolution française. Le premier, mythe d'une profession médicale nationalisée, organisée sur le mode du clergé et dotée de pouvoirs semblables au niveau de la santé et du corps à ceux que celui-ci exerçait sur les âmes. Le second, mythe d'une disparition totale de la maladie dans une société sans troubles et sans passions, restituée à sa santé d'origine. Donc j'ai essayé dans cette première partie de montrer que la médecine moderne s'est construite sur un discours émancipateur des corps individuels et collectifs, selon le paradigme du progrès qui s'énonce avec la modernité. Mais le fait que la médecine ait alors été liée au destin de l'État est d'une signification profonde. Dès lors, elle prend une posture normative et son rôle devient celui de régenter les rapports physiques et moraux de l'individu et de la société dans laquelle il vit. Cette situation va conduire à la constitution d'un corps médical nouveau et à une prise de pouvoir du champ médical. Donc, au cours du XIXe siècle, la médecine connaît une transformation politique et idéologique de grande ampleur. Elle se voit reconnaître une place privilégiée dans l'appareil d'État et s'immisce de plus en plus profondément dans l'existence des individus. À la fin du XIXe siècle, les médecins obtiennent une loi qui les satisfait. D'une part, elle punit sévèrement l'exercice illégal de la médecine, reconnaissant ainsi aux médecins le monopole des soins médicaux et du corps. D'autre part, elle leur donne le droit de s'assembler en syndicat professionnel. Leur statut de profession est acquis. Ce n'est que lorsque se met en place une politique de santé nationale avec un encadrement médical de la population que l'hôpital est progressivement réformé et qu'on lui assigne une fonction essentiellement thérapeutique. En effet, jusqu'au XVIIe siècle, le champ hospitalier est construit sans médecin. La pratique médicale a lieu à l'université ou au domicile des patients. Le médecin pouvait être un visiteur de l'hôpital, l'inspectant, mais il ne participait pas à sa gestion quotidienne. Dans le courant du XIXe siècle, l'hôpital s'organise autour de l'examen fréquent de l'état des malades et de la visite médicale. Il est désormais consacré comme lieu spécifique de soins et non plus comme lieu d'assistance, et le pouvoir hospitalier est transféré du religieux au médecin. Donc, comme le rappelle Michel Foucault, la clinique qui émerge, donc cet hôpital moderne au XIXe siècle, est à la fois le nom d'un savoir et d'une pratique pédagogique. Donc on voit ici deux tableaux qui représentent la naissance de la clinique, donc tous les deux du XIXe siècle, et on voit que le sujet en fait, de ces tableaux n'est pas tant le patient, donc à gauche il est justement en retrait sur la gauche, mais bien en fait le professeur qui, à travers une pratique pédagogique, s'entoure d'étudiants pour apprendre la pratique médicale de la clinique. Le modèle de la clinique peut se définir par quatre aspects. Le premier, la démarche anatomo-clinique, qui consiste à faire le lien entre des symptômes et des lésions organiques. Chaque altération fonctionnelle se traduit par une expression symptomatique et correspond nécessairement à une altération organique. Le phénomène pathologique a donc une détermination causale, et la médecine clinique va agir en trois temps. Tout d'abord, déterminer quel est l'organe qui souffre, puis expliquer comment il est devenu souffrant, et enfin, indiquer ce qu'il faut faire pour qu'il cesse de souffrir, c'est-à-dire en supprimer la cause. Le deuxième aspect, c'est la consultation clinique, qui va consister à recueillir des informations auprès des patients en les examinant avec attention. Foucault, dans son ouvrage « Naissance de la clinique », remarque, explique ici que le langage médical de la consultation va passer du « qu'avez-vous », qui était plutôt le modèle précédent, au « où avez-vous mal », qui est en fait une question qui du coup va cibler directement sur une éventuelle localisation organique d'une maladie. Le troisième aspect est la recherche anatomopathologique, qui consiste à étudier les différents éléments du corps humain, organes, tissus, cellules, chez les individus sains et vivants, puis sains et morts, puis malades et vivants, et enfin malades et morts, afin de comparer le corps dans ces quatre aspects possibles, ces quatre états possibles. Le dernier aspect sont les dispositifs cliniques, qui marquent une nouvelle manière d'inscrire le champ médical dans l'espace social. Donc ces nouveaux dispositifs qui organisent la médecine clinique peuvent se voir par exemple à travers l'architecture des hôpitaux, par exemple la spécialisation des salles par affection lisible. Le fait qu'on spécialise, en fait, donc on voit encore ça dans les hôpitaux aujourd'hui, leur règlement, leur fonction pédagogique, leur appartenance aux institutions, en fait toute une mise en place de tout un tas de dispositifs à la fois architecturaux, juridiques, etc., qui vont permettre à la médecine clinique de s'étendre aussi dans l'espace social et qui vont permettre en fait d'asseoir ensuite leur scientificité et cette pratique pédagogique. La machine corporelle devient donc le seul lieu possible de la maladie, le seul objet d'étude et d'intervention du savoir médical. La maladie devient localisable sur l'étendue du corps. Il s'opère ainsi une déconnexion entre la localisation organique de la maladie et l'individu souffrant. François Laplantine, qui est anthropologue, écrit à ce propos « Ce qui ne va pas, c'est un organe qui est en moi, mais qui n'est pas réellement moi-même. Les maladies sont des réalités qui ont finalement peu de choses à voir avec la personne malade. Si c'est le foie ou l'estomac ou les nerfs, alors je n'y suis pour rien, ça n'est pas moi. » Donc là, il explique en fait vraiment cette déconnexion qui se fait entre une maladie qui est localisable et en fait un individu souffrant qui dépasse largement cet aspect. Ce nouveau regard sur les corps malades et la maladie va mettre en quelque sorte un terme à la quête du sens. Définitivement, la médecine pose la question du comment, rarement celle du pourquoi. Parallèlement, les hygiénistes ont conscience de l'importance de la fonction sociale du médecin. Durant tout le XIXe siècle, ils s'emploieront à démontrer le rôle crucial pour la santé, des conditions d'environnement physique et social, et à prôner des réformes pouvant les améliorer. À la fin du siècle, les vues hygiénistes convergent avec les objectifs du pouvoir politique. Se met alors en place des services de surveillance, d'enregistrement et de statistiques de la santé sur la population. Ainsi, essentiellement basée sur une vision organiste et physiologique des corps et de la vie, la médecine moderne va imposer, à partir de sa dimension politique et normative, des catégories de différenciation et de hiérarchisation sociale des corps. Armée d'outils techniques et scientifiques, la médecine ordonne la sexuation des corps, leur racialisation et leurs positionnements sociaux, dictant au nom de la science ce qui est de l'ordre de la nature et de la contre-nature, ce qui est normal et pathologique, ce qui est supérieur et inférieur. C'est ainsi que, par exemple, la médecine a contribué à définir le féminin et le masculin sur des fondements biophysiologiques assimilés à la nature. L'opposition entre les rôles des hommes et des femmes se trouve renforcée et l'équation entre femme, mère et foyer prend la valeur d'un fait de nature. Cette naturalisation a pris appui sur une identification et une restriction croissante de la féminité à la fonction de reproduction, elle-même réduite à la possession d'une anatomie comprenant ovaire et utérus. Le discours de l'anatomie a ainsi été un relais majeur de la fabrique du sexe, en référence à l'ouvrage de l'historien Thomas Laqueur. Prenant les atlas d'anatomie du XVIIIe siècle comme témoin de ce processus, l'auteur, donc Thomas Laqueur, a suivi l'apparition du modèle des deux sexes opposés. Non pas qu'antérieurement, les sociétés n'avaient pas vu de différence entre les corps humains, que nous reconnaissons aujourd'hui comme mâles et femelles, mais ces différences ne constituaient pas un système bipolaire. L'anatomie des femmes était alors considérée comme un analogue rentré de l'anatomie masculine, avec notamment un jeu de correspondance entre ovaires et testicules, vagin et pénis. Le sexe unique se déclinait selon un gradient de qualité, faisant qu'il pouvait être plus ou moins fort. Cela ne signifie pas que les femmes étaient équivalentes aux hommes, mais simplement qu'il n'était pas besoin de rendre compte de la hiérarchie sociale entre les individus par la structure biophysiologique des corps. La fabrique des sexes est celle d'une vision biologique initiée par l'anatomie et poursuivie par les théories hormonales du XIXe siècle. La différence entre les sexes n'est plus une question de degré, mais d'espèce. Son apparition est pour Thomas Laqueur un effet paradoxal des Lumières. En effet, reconnaître les qualités de droit de tous les hommes, tout en excluant les femmes de cette égalité et de leur représentation politique, demandait quelques justifications. La théorie de l'irréductibilité biologique de la différence des sexes jouera ce rôle. En France, Paul Broca, qui est un médecin et anthropologue du XIXe siècle, démontra ainsi l'infériorité des femmes par rapport aux hommes de par la plus petite taille de leur crâne. Il insista sur l'inutilité de l'enseignement supérieur pour les femmes, leur petit cerveau ne serait jamais à la hauteur. De la même manière, Paul Broca s'attarda à établir plus généralement la relation entre la taille des cerveaux et le degré d'intelligence qu'ils pouvaient avoir. Il écrit « En général, le cerveau humain est plus gros chez l'adulte que chez l'enfant, chez l'homme que chez la femme, chez les savants que chez les hommes médiocres, chez les races supérieures que chez les races inférieures. La relation qui existe entre le développement de l'intelligence et le volume du cerveau est très étroite. » Donc on voit bien dans cette citation l'analogie qui va s'opérer entre des différenciations et des hiérarchisations de genre, de classe et de race. Donc ce que je viens d'évoquer ici n'est pas exhaustif, et il ne s'agit pas non plus pour moi de réduire l'histoire de la médecine moderne et contemporaine à ce tableau. Néanmoins, il semble important de souligner l'aspect très normatif de celle-ci, de par son alliance aux politiques. Confondant l'observation physiologique avec des explications d'ordre naturel, un amalgame s'est opéré entre le biologique et la nature, percevant ainsi des différences culturelles et sociales comme des faits de nature. Le dernier aspect que j'évoquerai rapidement ici est la relation très étroite que la médecine entretient avec la technique et les technologies. Tout d'abord, l'essor de la radiologie au XXe siècle a permis d'observer les organes internes par un médium technique sans ouvrir ni toucher le corps. Le corps du malade circule à présent entre des machines. L'évolution majeure induite par l'imagerie et ses techniques est la possibilité pour le corps soignant, et là je cite un médecin, de faire travailler l'image après le départ du patient. L'image tourne, pivote selon l'incidence choisie. Elle est à disposition. L'ensemble des paramètres obtenus est suffisant pour qu'elle soit devenue autonome. La trace laissée par le rayonnement est mille fois plus importante que le corps lui-même. Puis, au XXIe siècle, l'ère de la chirurgie robotique s'ouvre. La première opération à distance a lieu en 2001. Tandis que le chirurgien est basé à New York, il pilote par télécommunication un bras robotisé. La patiente, elle, est à Strasbourg. L'opération durera en tout 54 minutes et la patiente sortira 48 heures après. Si la médecine est toujours dans l'exploration visuelle du vivant, elle se fait désormais dans l'espace du virtuel. De plus, le projet nanotechnologique s'amorce dans les années 60 aux États-Unis. Avec la biologie moléculaire, notre conception du corps se modifie. L'organisation vivante devient le modèle d'une nanotechnologie naturelle. Par exemple, l'implantation de puces identifiantes aux États-Unis permet de transmettre directement les informations du patient au médecin. Ainsi, le paradigme du corps-machine n'est plus simplement une métaphore, c'est-à-dire une représentation du corps, ni même la machine n'est plus qu'un artifice qui prolonge ou répare le corps. Les machines, ici les nanotechnologies, deviennent internes au corps et modifient son fonctionnement même. Enfin, les organes artificiels représentent un autre développement majeur. Peu à peu, toutes les fonctions organiques trouvent leur équivalence mécanique, chimique ou physique. L'interruption, passagère ou prolongée, de la vie organique ne débouche plus nécessairement sur la mort. Et ces avancées techniques s'appliquent même au domaine de la gériatrie, posant la question du sens de l'application systématique du savoir technique. Ainsi le témoignage d'un médecin dans un article du Monde. Madame S., 89 ans, grabataire, a perdu depuis 15 ans ses facultés intellectuelles. Une incontinence exige la pose d'une sonde vésicale et des soins attentifs et constants permettent seuls d'éviter les escarres qui la guettent. À la suite de troubles du rythme cardiaque, elle a été munie à 82 ans d'un régulateur. Un accident vasculaire cérébral, énergiquement traité, a entraîné des troubles de la déglutition et une aphasie. Elle est alimentée par sonde gastrique. La pile de son régulateur avait eu il y a 4 ans une défaillance. Après un traitement vigoureux de soutien cardiaque, elle a pu être changée. Lorsqu'on m'a appelé auprès d'elle, j'ai agi de façon automatique. Mais je lui ai sauvé la vie. Donc là, dans cet exemple-là, il ne s'agit pas pour moi de dire ce qu'il aurait dû faire ou non sur ce cas précis, puisque je le connais qu'à travers son témoignage, mais plutôt de souligner l'aspect non réflexif lorsqu'il dit « j'agis de manière automatique sur ce corps-là ». Donc pour moi, ça pose vraiment la question du sens. Est-ce que si on peut, on doit? Et voilà. Donc, qu'est-ce que la médecine, en fait, fait de ces questions-là? Les possibilités de survie artificielle des fonctions organiques engendrent une population d'entre-deux, des vivants presque morts ou des morts presque vivants. Les questions que soulèvent ces nouveaux morts-vivants se complexifient avec le développement des techniques de greffe et de transplantation d'organes. Ils deviennent de fabuleux réservoirs d'organes potentiels. Et pour que le prélèvement soit efficace, il faut que le donneur soit en quelque sorte encore vivant. Les états frontières, où le patient est considéré comme incapable de revenir à la vie, mais où le matériau organique est maintenu en état de marche, constituent en effet un cas de figure presque optimal pour opérer des prélèvements. Donc, ce qui pose aussi également la question de la définition de la mort, du rapport qu'on entretient à elle. Donc l'histoire de la médecine moderne, qui apparaît souvent de prime abord comme relevant essentiellement d'une rationalisation du regard et des pratiques, se double de fantasmes. Celui d'une maîtrise des corps, de la vie et de la mort, réinterrogeant les fondements du caractère anthropologique de l'humain. Cette histoire que j'ai essayé de montrer ici est également celle d'une médicalisation croissante des corps, des individus et des différents champs du social. J'en arrive à ma conclusion. Donc on l'a vu, le phénomène de médicalisation de la société prend toute son envergure au moment où s'opère cette convergence des politiques publiques et du champ médical, qui octroie à celui-ci une dimension normative. Autrement dit, la médicalisation suppose une dimension politique dans la mesure où la prise en charge de la maladie se double d'une inscription dans l'espace social. D'une manière générale, on entend fréquemment par processus de médicalisation surtout la multiplication des institutions de santé et des personnels médicaux et paramédicaux. Mais la médicalisation ne se réduit pas à cela. En effet, elle comprend également l'extension du champ de compétences de la médecine. La médecine n'est plus seulement un art de la guérison. Elle a également inclus dans son activité la prévention, la prédiction, la prise en charge de l'incurable, etc. Une science de la guérison, elle est devenue une science de la santé, ce qui inclut très largement des pratiques alimentaires, sportives, hygiéniques, etc. Par médicalisation, on peut aussi entendre la formidable légitimité scientifique dont bénéficie la médecine et le fait qu'il ne semble pas y avoir d'autres expertises possibles. Avec le progrès thérapeutique et la croyance d'un pouvoir de guérison illimité, la médecine est devenue l'unique discours légitime sur le corps humain. Puis nous pouvons distinguer une troisième forme d'expression de la médicalisation, l'amplification des préoccupations de santé de la population. Il s'agit de la propension fortement intériorisée qu'ont les individus à davantage déclarer de troubles de santé et de maladies. Ce phénomène peut être analysé comme une modification du seuil de perception des troubles et des symptômes. Enfin, la tendance accrue de l'inscription des symptômes corporels et psychiques dans l'ordre de la pathologie contribue au recours de plus en plus systématique aux services et biens médicaux. La médicalisation est donc un phénomène complexe qui marque notre société en profondeur et qui oriente les champs de l'économie, du droit, du politique, mais également les pratiques et les représentations sociales. Le modèle de la médecine moderne, dont j'ai voulu ici donner un aperçu, reste encore dominant dans beaucoup de secteurs du champ médical et dans les représentations collectives. Cependant, depuis la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs formes de contestation face aux excès de la médecine moderne émergent. Donc par excès, j'entends à la fois la normalisation des corps, des formes d'acharnement thérapeutique, une prise en charge hyper technique, le morcellement du corps, l'envahissement du discours de la médecine, etc. Donc les discours critiques vont se porter sur ces excès. Les capacités d'intervention sur le corps humain se sont démultipliées et les limites de ce dernier se trouvent sans cesse repoussées. Mais les maladies chroniques qui se développent au XXe siècle agissent comme un rappel constant. La science et la technique médicale n'ont pas réussi à arracher l'humanité de sa condition de mortel, ni à répondre aux questions de sens les plus aiguës provoquées par la mort et la maladie. La médecine moderne a engendré des dilemmes nouveaux auxquels elle est bien en mal de répondre. Malgré une certaine efficacité technique, le sentiment d'inefficience et d'inadaptation d'une médecine en crise s'accroît. Dès lors, une nouvelle sensibilité naît, tout autant chez les médecins que chez leurs patients, créant les conditions d'un nouveau rapport. C'est face aux limites du processus de médicalisation qu'émerge le besoin d'une autre médecine. Et ici, je voulais vous montrer deux tableaux très récents, donc celui-ci des années 50, donc qui s'appelle « L'anatomiste ». Et donc on voit ici, dans cette représentation, en fait, qu'il y a complètement une décomposition des organes, on a du mal à les reconnaître. Et c'est vraiment avec ces gestes de dissection, pareil, qui sont pas très clairs. Et en fait, je trouve que l'idée qui se ressort de ce tableau, c'est un peu l'idée de la profanation d'un corps. On a comme ça un sentiment très gênant, contrairement au tableau que j'ai un peu montré tout à l'heure, en fait, des anatomistes, avec la vision d'un cadavre comme ça, très blanc, très... Et la deuxième représentation, donc celle-là est de 2002, qui s'appelle « Intubé ». Et donc là, on voit également un corps, en fait, qui est suspendu, on ne sait pas trop, on a presque l'impression qu'il y a un hameçon dans sa bouche, et surtout un corps torturé. Et donc ces deux tableaux, pour moi, montraient bien, aussi dans les représentations de la peinture, en fait, cette médecine en crise, qui en tout cas pose dans ces deux tableaux en fait peut-être la question de la dignité humaine à la fois dans les corps morts et dans les corps soignés. Voilà, et donc je voulais juste terminer sur une citation de Didier Sicard, qui est un médecin français et l'ancien président du comité consultatif national d'éthique de 1999 à 2008. Et donc il écrit sur la médecine « Si l'homme était resté au centre de la médecine, s'il était demeuré sa cible privilégiée, la médecine ne serait jamais devenue une politique de santé. Elle serait restée un art, une science humaine, mais l'a-t-elle jamais été ? Une véritable politique de santé exige non seulement que le malade soit ou devienne le faire-valoir de la médecine, mais en outre qu'il soit aliéné par elle. L'autonomie du malade est une fiction entretenue par des décideurs qui laisse au médecin l'impression illusoire qu'il détienne le pouvoir. Le médecin pense qu'il est à l'origine, alors qu'il est devenu un agent de la chaîne de soins, peut-être même le chaînon manquant de la médecine. Cette situation d'aliénation du corps à la médecine précède l'aliénation de la médecine aux politiques, aliénation qui doit pourtant rester invisible ou inconsciente. Ni le médecin, ni le malade n'en ont réellement conscience. Si c'était le cas, il se rebellerait contre cet état de fait qu'il jugerait insupportable. En effet, quand le politique contourne trop visiblement la médecine, l'être humain perd confiance et se rebelle, ce qu'il ne fait pas si la médecine continue d'apparaître comme seul dépositaire légitime des actions de santé. Ainsi, médicalisation et politisation vont de pair, tels deux compères. Donc voilà, finalement, face à cette hyper-médicalisation des corps et de la société, deux voies semblent s'ouvrir. Donc soit un renouvellement de la pratique médicale, comme ça a lieu par exemple avec la naissance de l'éthique médicale depuis les années 50, le fait d'ouvrir le champ médical à des non-soignants, peut-être d'autonomiser la médecine de la politique, comme le propose Didier Sicard, soit une deuxième voie qui viserait plutôt à des formes de démédicalisation du corps ou de certains champs d'activité de la société, etc. Voilà.